France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
L'exposition Science-fiction, une non-histoire des plantes, se poursuit jusqu'au 19 janvier à la Maison européenne de la photographie à Paris. Quelle est la place du monde végétal dans les imaginaires et la SF ? L'altérité radicale de la vie végétale s'expose à la MEP, avec un parcours qui révèle la fascination des biologistes, horticulteurs et artistes. Dès sa naissance, la photographie est devenue essentielle aux études botaniques. Et au cours du XXe et XXIe siècle, les productions plastiques, cinématographiques et littéraires ont été marquées de l'évolution de la perception des végétaux. Si la SF fait la part belle aux plantes carnivores géantes et aux monstres plantes, l'exposition soulève aussi un point intéressant pour les taxonomistes, celui de l'avenir végétal. Botanique, un terreau pour la SF. Marc Janson, bonjour.
Bonjour Natacha Triou.
Vous êtes botaniste au Muséum National d'Histoire Naturelle et ancien responsable de l'Herbier National. Nous sommes en ligne également avec Clotilde Morette, bonjour.
Bonjour, merci à vous pour cette invitation.
Merci à vous, vous êtes directrice artistique de la Maison Européenne de la Photographie, co-commissaire de l'exposition Science-Fiction. Et Jean-Sébastien Steyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste en biologie spéculative. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. X, ex-Twitter, n'est plus une plateforme fréquentable, donc nous avons migré sur Blue Sky et nous vous invitons à nous y rejoindre. C'est sur notre compte @sciencesqfd et vous y retrouverez toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors comment la représentation et la compréhension des végétaux ont-elles évolué depuis le 19e siècle ? Dans quelle mesure le monde végétal est-il une source inépuisable de récits ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour et on ouvre nos herbiers. Nous sommes en 1972.
Je vais vous montrer un paquet d'herbiers, tel qu'il se trouve dans nos collections, puisque nous avons ici trois galeries qui ont 40 000 cases. Donc il y a 40 000 paquets comme ça, il y en a même des plus gros. Celui-là est peut-être un peu plus gros, il y en a des plus petits aussi. Mais enfin, 40 000 paquets, ceci représente en totalité à peu près 6 millions d'échantillons. Je vais vous montrer aussi autre chose, ce sont les fruits. Parce que lorsque vous avez des spécimens comme ceci, il est évident que les fruits sont très petits. Un gland n'est pas gros et on peut l'attacher facilement sur une feuille d'herbier. Mais lorsqu'il s'agit d'un conifère, d'un araucaria par exemple, justement, voici. Vous voyez, les fruits sont énormes. Alors pour les conserver, il faut les mettre dans des boîtes en plastique. Et sur ces fruits, vous retrouvez le nom du collecteur, le numéro. Voici un herbier très ancien. Voyez-vous ? C'est un herbier qui est collé à la cire avec des petits morceaux d'étain. Nous avons une cinquantaine de volumes de cet herbier, c'est l'herbier Allaire. Voici maintenant l'herbier Jean-Jacques Rousseau. Nous avons aussi une quinzaine de volumes de cet herbier. Voici un herbier qui est très joli. Vous voyez, c'est de la marqueterie. Alors, vous voyez ici, les échantillons sont montés, c'est un montage. Au point de vue scientifique, il n'a pas beaucoup de valeur, mais en fait, il est très joli. Voici maintenant le plus vieil herbier, ou tout au moins un des plus vieils herbiers du monde. Il s'agit de l'herbier Jean Giraud. Il date de 1558. Vous voyez, c'est un herbier qui est cousu. Vous voyez les plantes, et vous voyez les morceaux de fil, là, qui ont servi à le coudre. Vous voyez, c'est très vieux, ça, 1558.
Voilà un extrait de l'émission « À ma fenêtre » diffusée sur la ORTF et Monsieur Verdier, directeur des cultures au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors cette forme de représentation qu'est l'herbier est très présente dans l'exposition, Marc Johnson. Comment aujourd'hui la botanique, comment continue-t-elle de s'appuyer sur les herbiers ?
Alors, elle continue à s'appuyer sur les herbiers de plusieurs façons. Faut dire aussi que on a une très belle liste, très subjective et sélective de ces herbiers que nous avons pu entendre. Mais ces collections, premièrement, elles continuent à s'enrichir. En continuant à s'enrichir au Muséum à Paris, comme dans des milliers d'autres institutions botaniques de notre planète, elles continuent à apporter, à conserver des spécimens de plantes qui jusqu'à présent n'avaient peut-être pas encore été collectés. Donc il y a aussi beaucoup de choses inconnues qui continuent d'arriver au muséum. D'où la nécessité de continuer à décrire des espèces. On décrit chaque année des centaines et des centaines de nouvelles espèces de plantes. Donc il y a un rôle taxonomique de description des espèces qui continue d'être absolument prioritaire et essentiel pour les herbiers aujourd'hui. Et puis ce qu'il faut imaginer, on entendait là, l'ancienneté de certains herbiers, de certains spécimens par la voix d'un collègue du muséum qui décrivait ces herbiers. On voit que certains datent du XVIe siècle. On sait que l'invention des herbiers date du début du XVIe siècle. Et donc on a quelque part un recul de plusieurs siècles qui nous permet de poser sur une grande map monde mondiale, puisque quand on a la chance d'avoir un herbier de l'importance de celui du Muséum de Paris, qui compte à peu près 8 millions de spécimens, eh bien on arrive à une forme de cartographie rétroactive de la présence de telle ou telle espèce sur tel ou tel fragment du monde, et ça nous donne une force extraordinaire pour documenter, non pas cette fois-ci les caractéristiques d'espèces qui pourraient être nouvelles pour la science, mais la continuité de l'existence de telle espèce à tel endroit du monde, ou au contraire, son déplacement, son absence ou son extinction. Et ça, évidemment, dans le contexte que l'on traverse aujourd'hui, c'est absolument crucial.
Jean-Sébastien Steyer, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive sur l'importance des herbiers pour décrire morphologiquement les espèces?
C'est crucial, en fait. La description anatomique, botanique est vraiment la base, en fait, pour étudier l'évolution des espèces. D'où l'importance aussi du terrain pour collecter, que ce soit des plantes actuelles, fossiles ou d'autres organismes, et collecter, travailler en fait sur les collections et valoriser les collections d'une manière scientifique avec les publications.
Clotilde Morette, on a cette histoire des sciences, l'histoire des herbiers, et on voit qu'aujourd'hui, ces herbiers continuent d'inspirer les artistes.
Oui, alors nous on a des herbiers un peu particuliers dans l'exposition, puisqu'on a des photographies réalisées par Karl Blossfeld, qui sont des photographies qui datent de 1928, alors qui ne sont pas vraiment des herbiers dans le sens où chez Blossfeld, qui était un professeur aux arts décoratifs à Berlin, qui n'avait pas du tout d'intérêt à proprement parler scientifique envers les plantes, mais qui a réalisé des photographies absolument incroyables de dizaines et dizaines d'espèces différentes en gros plan. Donc c'est des images très détaillées. Et lui s'intéressait aux plantes dans un but d'apprentissage. Il voulait expliquer aux étudiants qu'en fait il y avait des formes artistiques qui se trouvaient déjà naturellement dans la nature, dans les végétaux. Et donc c'était aussi une manière d'enseigner les arts décoratifs. Et c'est des photographies où ces plantes sont prises en très très gros plan. Elles deviennent presque abstraites, c'est-à-dire qu'on a du mal à reconnaître qu'il s'agisse vraiment d'espèces végétales. Et on a l'impression d'avoir des sortes de sculptures absolument incroyables en fer forgé. Et donc voilà, on a cette typologie aussi dans l'exposition d'herbiers, mais qui a peut-être d'autres désirs, d'autres optiques que d'être des objets scientifiques.
Clotilde Morette, l'idée principale de l'exposition, c'est quand même de faire transparaître ces différents regards sur les plantes. C'est une histoire visuelle des végétaux. Mais il faut commencer par dire que l'histoire visuelle des plantes, c'est d'abord celle d'une dépréciation. Vous évoquez ce concept qui est celui de la cécité botanique.
Oui, effectivement. C'est une exposition aussi qui est née pendant la crise du Covid en 2020, et je pense que c'était aussi une période où on s'est beaucoup interrogé sur notre relation au vivant, en tout cas sur cette crise écologique qu'on traverse depuis plusieurs années. Et finalement, c'est vrai que avec Victoria Arecheva, qui est la co-commissaire de cette exposition avec moi, on s'est aperçu que finalement les végétaux étaient un peu délaissés, qu'on ne sait pas les nommer, qu'on passe un peu à côté d'eux sans les percevoir. Et on s'est intéressé aussi à cette théorie de la cécité botanique, alors qu'il y a une théorie qui a été développée par deux chercheurs américains, James Wandersee et Elizabeth Schulzer. Alors c'était en 98-99, et ils expliquent que en fait les végétaux sont perçus comme hiérarchiquement moins importants que l'espèce humaine, que les animaux, ce désintérêt s'explique aussi par leur altérité radicale. C'est-à-dire que les modes de vie des plantes diffèrent tellement de la vie humaine, à la fois dans la temporalité, dans la croissance des formes, dans les sensations, qu'on a tendance à ne pas s'intéresser à elles, à ne pas les voir.
Ça, c'est un point de vue que vous partagez, Marc Janson?
Oui, absolument, évidemment, et malheureusement, puisque en fait, si on veut regarder d'une façon un petit peu diachronique, finalement, entre l'échelle des êtres d'Aristote et ce que le non-averti peut percevoir des plantes aujourd'hui, comme le disait Clotilde Moret, il y a finalement pas tant d'évolution que ça dans ce côté très inférieur des végétaux. À la fois, on ne les perçoit pas, et à la fois, on a aussi tendance à oublier ce qu'on leur doit. Alors, peut-être moins en termes biologiques ou en termes évolutifs, mais en termes artistiques, c'est vrai que les plantes ont fait partie, et puisqu'on parle de Blosfeld et de son travail absolument remarquable, c'est peut-être l'occasion de dire, comme le dit Alice Tomine Berada dans un catalogue d'exposition qui avait été produit pour une autre exposition qui portait sur les plantes qui s'appelait Végétal, c'est que les étudiants, finalement, les étudiants en art, en beaux-arts, avaient une épreuve de nu, et puis il y avait aussi, bien sûr, l'étude du végétal, qui était comme une discipline fondamentale de la formation du regard des artistes. Blosfeld nous parle de tout ça, Blosfeld et bien d'autres, hein, puisque cette exposition a aussi la qualité de rassembler comme ça une quantité d'artistes qui se tiennent dans ce creuset-là, de montrer la beauté, la diversité, avec ce que la photographie peut nous permettre de faire, c'est-à-dire des agrandissements ou des focus. Et c'est vrai qu'on a aussi oublié tout ça, l'importance qu'elles ont pu avoir pour les artistes et pour ce qui a fait le monde. Enfin, l'exposition commence plutôt fin 19e, début 20e. Vous me détrompez si je dis des bêtises.
C'est mais tout à fait ça.
On est aussi, évidemment, fin 19e, début 20e, dans l'art nouveau, dans l'importance que le végétal, ses formes, sa beauté a pu apporter. Et on a peut-être eu tendance à oublier tout ça aussi.
Vous évoquez en effet l'échelle des êtres qui place les plantes comme des êtres inférieurs. On a quand même, avant la naissance de la botanique, on trouve déjà des réflexions sur la représentation des plantes, Marc Janson. On a quand même toute une série d'évolutions sur le regard des plantes, les représentations qui en sont faites durant l'histoire des sciences.
Oui, alors l'histoire véritablement de la botanique, les spécialistes la confient en quelque sorte à Théophraste, qui est vraiment ce grec antique, fabuleux, qui va pour la première fois vraiment étudier les plantes pour ce qu'elles sont. Si on veut revenir un peu plus en arrière, on a quelques représentations végétales dans l'art pariétal autour de moins 10, moins 12, moins 8000 ans, mais c'est infiniment restreint par rapport à la diversité des animaux. Et là aussi, dans cette expression artistique qui est totalement en lien avec la biologie et la biodiversité de l'époque, on voit à quel point le végétal était omniprésent. Fallait se nourrir, fallait se soigner, fallait se loger. Et évidemment que notre existence en tant qu'espèce doit énormément au végétal. Et pourtant, encore une fois, cette cécité se manifeste.
Jean-Sébastien Steyer, on parle aussi de cécité botanique, mais on parle aussi parfois de myopie anthropocentriste.
Oui, tout à fait. En fait, le terme même de végétal fait référence en fait à l'état végétatif. C'est très péjoratif. Et puis aussi, on dit de quelqu'un qui est incapable de se déplacer que c'est un légume. Donc tout ça est très, malheureusement pour les plantes, mauvais en termes d'étiquette. Et c'est d'autant plus dommage que les plantes sont sur Terre depuis 500 millions d'années, bien avant les tétrapodes, avant même les arthropodes, et on est effectivement sur Terre grâce à elles, en termes d'évolution, mais aussi en termes de respiration, d'écosystème, etc.
Jean-Sébastien Steyer, pourtant les plantes ne sont pas complètement absentes du monde des représentations, je pense notamment durant l'Égypte ancienne.
Oui. On retrouve des anciennes représentations dès l'Antiquité de mandragore, notamment parce que les racines de cette plante aphrodisiaque, très utilisée par les pharaons et la société de l'Égypte de l'époque, évoquaient en fait des figures humaines. Donc, en fait, malheureusement, on s'intéressait aux plantes que ou pratiquement que parce qu'elles ressemblaient ou elles pouvaient ressembler à des figures humaines.
Encore un bon de l'anthropomorphisme, encore une fois. Clotilde Moret, comment justement cette perception a-t-elle évolué depuis la fin du 19e siècle?
Ah, c'est intéressant parce que l'anthropomorphisme, on y est encore, hein, dans l'exposition, on le voit. Je pense que c'est un biais humain dont on a du mal à s'émanciper. Mais ce qui vraiment nous a marqué avec Victoria, c'est que on voit que, alors, il y a un intérêt pour les plantes quand même au 19e siècle, à cette espèce de folie pour des fougères. Donc, on a notamment des cyanotypes d'Anna Atkins qui datent de 1851, 1853. Et puis, avec le temps, cet intérêt un peu se dissipe, et avec un retour en force dans les années 70, alors qui est lié aussi avec le début d'une conscience écologique qui arrive dans les années 60. On va s'intéresser aux plantes d'une manière assez particulière. Alors, je pense à un film qui est montré dans l'exposition, c'est un petit extrait. C'est un film qui date de 78 ou 79, qui s'appelle « La vie secrète des plantes », qui est l'adaptation cinématographique d'un ouvrage de 73, qui était un livre qui était une sorte d'étude autour de la sensibilité botanique. Et c'est un livre et un film qui a eu un énorme succès populaire à l'époque, mais qui a été aussi beaucoup décrié par la communauté scientifique comme étant de la pseudo-science. Et en fait, dans ce film, vous avez beaucoup de time-lapse, donc ces techniques d'accélération du mouvement, où on voit justement donc la croissance des végétaux. Il y a une scène magnifique avec l'arrivée du printemps puis l'été, une musique absolument planante de Stevie Wonder, et puis c'est entrecoupé de scènes qui se veulent un peu plus sérieuses, un peu plus scientifiques, où on voit le réalisateur voyager un petit peu partout à travers le monde, notamment en Russie. Et donc, on a une plante de chou qui est branchée à des électrodes. Et donc, cette plante de chou est en train de regarder un autre de ses congénères se faire couper par une scientifique. Et donc, le plant de chou est en train de bouger dans tous les sens parce qu'apparemment, voilà, il est stressé et il a conscience qu'il va lui arriver potentiellement la même chose. Et donc, c'est à la fois très drôle. Ce qui est aussi fascinant, c'est que ce film a eu un tel impact négatif sur toutes les études qui ont été menées à l'époque sur la sensibilité des plantes, que pendant très longtemps, les scientifiques ont arrêté en fait, d'étudier ces questions parce que c'était considéré comme non sérieux. Et finalement, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a une sorte de tournant végétal, de réintérêt aussi pour le monde botanique, pour les plantes, qui est sans doute lié aussi à l'urgence écologique.
Alors, quels ont été justement les liens fructueux entre science et photographie en matière de botanique ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
Direct sur France Culture avec Marc Janson, Clotilde Morette et Jean-Sébastien Steyer. Nous parlons de l'exposition Science-Fiction, une non-histoire des plantes à la MEP à Paris et plus généralement de la place de la botanique au sein des imaginaires science-fictionnels. On vient de voir que l'exposition présente des œuvres qui vont du début du 19e siècle avec les cyanotypes de la botaniste britannique Anne Atkins jusqu'à des œuvres contemporaines avec 40 artistes réunis. Marc Janson, on voit dans l'exposition une grande place qui est faite à la photographie, à la vidéo. Ça, ce sont des méthodes qui sont également employées dans les études scientifiques sur les plantes.
Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un intérêt, et ça, c'est une des forces de l'exposition, c'est qu'à chaque fois, on pourrait presque cacher le cartel et se dire, mais est-ce œuvre d'art ou est-ce œuvre de science ? Et il y a cette espèce d'entremêlement qui est particulièrement intéressant. Et c'est vrai qu'encore une fois, cette idée de la technique innovante qui arrive et qui nous permet de montrer différemment un organisme comme les plantes, ce qu'on évoquait tout à l'heure est tout à fait juste sur le fait que pour qu'on s'intéresse aux plantes, il faut qu'elles soient un peu animales. Alors ça traverse toute l'histoire de la botanique. On a parlé effectivement de la mandragore. On aurait pu parler de Claude Duret qui, dès le XVIe siècle, parle d'une liste comme ça de plantes complètement extraordinaires dont les fruits, lorsqu'ils tombent dans l'eau, se transforment en canard, ou un arbre de cibulon dont les feuilles, quand elles touchent le sol, voient des petites pattes apparaître qui permet aux feuilles de bouger. Il y a toute cette histoire de l'agneau tartare. Enfin, il y a vraiment des légendes comme ça sur cette espèce d'hybridation, de chimère entre plantes et animaux. Il parle de zoophytes à l'époque. Et finalement, même au XIXe, 1874, on est quand même dans une compréhension des plantes beaucoup plus précise que ce qu'on pouvait connaître à l'époque de Claude Duret. Et on a encore l'idée de l'arbre cannibale, anthropophage. Ça va être beaucoup suivi. Il va y avoir des arbres comme ça signalés en Afrique du Sud, signalés en Amérique centrale. Et finalement, ce qu'on voit avec Commandon, c'est un peu du même registre. Donc Commandon, qui est un peu ce père du cinéma, où on va voir ces plantes accélérées, les floraisons accélérées, ou les mouvements des vrilles, de courges qui cherchent à s'enrouler, s'attacher à un support. Finalement, pour le spectateur, on peut peut imaginer à quel point cette nature finalement animale du végétal qui d'un seul coup devient dotée de mouvements, presque d'une intentionnalité dans ses mouvements, on voit que c'est pas des mouvements complètement désorganisés, mais qu'il y a vraiment une forme de rythmicité de ces mouvements, bah d'un seul coup cette plante devient, grâce à cette caractéristique en quelque sorte animale, enfin vivante, enfin digne d'intérêt, et c'est ce qu'on retrouve, et ça la sélection des films science-fiction et autres est tout à fait parlante dans l'exposition, c'est un peu cette plante carnivore qui devient dans son côté chimérique, finalement, le fameux zoophyte de Duret existe encore aujourd'hui, puisque c'est là qu'elle devient monstrueuse, c'est là qu'elle devient menaçante, parce que justement, elle a des caractéristiques animales.
En effet, ces timelapses de Jean Commondon, biologiste et l'un des pionniers du cinéma scientifique avec la croissance des végétaux en 1929, Clotilde Moret, cette technique, le timelapse, c'est quelque chose aussi qui a permis de changer complètement le regard que l'on porte sur les plantes. Hein. On a fait sortir les plantes du domaine de ce qui végète.
Complètement, mais en fait, c'est vraiment, enfin, ce que dit Marc Janson, c'est vraiment intéressant parce que, et merci aussi pour ses propos positifs sur l'exposition, mais justement, ces techniques photographiques et vidéo ont permis, alors c'est drôle parce qu'on a toujours tendance à penser que la technique nous éloigne en fait de l'environnement naturel. Là, au contraire, ce sont des techniques qui nous ont permis de mieux les appréhender, de mieux les comprendre. Et le time-lapse, parce que le temps végétal est radicalement différent du temps humain, a permis en fait de rapprocher la temporalité des plantes d'une autre. Et donc cette compréhension, une forme d'empathie aussi se crée. Et c'est vrai que Commondon, il y a quelque chose de magique dans ses films, parce que c'est vraiment un scientifique, mais qui a aussi un vrai désir, qui a un goût pour la beauté quand même, pour la poésie. Enfin, c'est des films qui restent absolument fascinants à regarder encore aujourd'hui.
Marc Janson, si on regarde de plus près l'histoire des arts, on remarque que les nouvelles techniques artistiques sont souvent mises au service de la science très rapidement.
Oui, absolument, et vice-versa, encore une fois. Oui. D'ailleurs, pour faire un lien, simplement, on vit un moment assez extraordinaire à Paris en ce moment, c'est qu'on a du pain levé dans l'exposition de la MEP, on a aussi du pain levé dans l'exposition surréaliste à Pompidou, et on voit comment ces images scientifiques, tout à fait objectives, d'études du vivant, débordent effectivement et servent d'inspiration à quantité d'expressions artistiques. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le travail d'Angelica Messiti qu'on découvre dans l'exposition, où elle va analyser, donner à voir à travers des UV certaines structures végétales, des fleurs, des carpophores, de champignons. Et ça, c'est des choses qui, scientifiquement, ont été très utiles pour documenter notamment des phénomènes d'attraction des pollinisateurs avec des guides à nectar. Hein. Les abeilles, notamment, les hyménoptères, voient beaucoup, perçoivent les UV, ce que nous, pauvres humains, ne percevons pas. Et quand on arrive, avec un outil scientifique innovant, à finalement se mettre à la place de l'insecte, on découvre que cette interaction entre fleurs et pollinisateurs, elle est guidée, elle est organisée. On a ces guides à nectar qui permettent aux abeilles de foncer directement, je dirais, sur les zones d'intérêt pour elles, c'est-à-dire des zones qui produisent du nectar ou du pollen. Et on voit comment cette technique a été complètement reprise par Angelica Messiti dans ses œuvres. Donc c'est vraiment cette porosité, cette perméabilité totale qui, dans l'histoire des sciences, est aussi très importante, puisqu'en botanique, peut-être plus particulièrement qu'ailleurs, cette idée de représenter, cette idée de l'exhaustivité de la représentation de l'organisme dans ses dimensions, dans ses couleurs, dans ses pilosités, dans ses architectures, a toujours fait appel à un compagnonnage avec les artistes qui ont moulé en cire, qui ont moulé en verre, qui ont fait bien sûr des dessins, des aquarelles, des peintures. Et pour moi, l'exposition, elle poursuit quelque part cette espèce de grand compagnonnage historique et scientifique entre les artistes et les botanistes.
Le biologiste, en effet, Jean Painlevé, qui a dit « Le cinéma scientifique est certainement l'une des sources de la poésie cinématographique, cela crée un autre univers. » Clotilde Moret, ce même Jean Painlevé, vous ouvrez l'exposition sur une autre de ses citations qui est, je la cite, « La science est une fiction, faire de la science-fiction est carrément inutile. » Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est une forme de provocation, presque.
Mais c'est drôle parce que c'est sans doute l'une des premières phrases, une des premières citations qui m'est apparue pendant la recherche autour de cette exposition. Moi, je la comprends comme l'aspect magique aussi de la science. C'est-à-dire qu'on a beau expliquer des phénomènes, les rationaliser, ça n'enlève rien en fait à leur beauté, à leur magie. Et finalement, dès qu'on s'intéresse, parce que et puis aussi sans doute parce qu'en fait, on connaît tellement peu notre l'environnement naturel dans lequel on évolue, on connaît tellement peu le monde des plantes que dès qu'on apprend en fait leur fonctionnement, leur mode de vie, on est tout de suite fasciné et frappé en fait par leur capacité. Les plantes sont quand même, enfin, on a quand même la capacité de perdre l'ensemble de leurs organes, de renaître, de revivre. Enfin, c'est, je pense qu'en fait cette altérité radicale, cette différence radicale entre nous humains et les végétaux crée aussi de la fascination.
Ça m'évoque aussi Bruno Latour qui considère que la science se construit à travers une mise en récit. L'imaginaire n'est pas l'apanage de la création artistique et la rigueur, l'objectivité, celui de la recherche scientifique, je le cite. Alors dans l'exposition, on retrouve plusieurs artistes qui se sont servis des sciences pour réaliser leurs œuvres. C'est notamment le cas de la photographe Anaïs Tondeur. Pour le reportage du jour, vous l'avez rencontré, Loïc Dutoit. Bonjour Loïc.
Bonjour Natacha. Effectivement, pour son dernier projet, intitulé Fleurs de feu, Anaïs Tondeur s'est entourée de deux botanistes en écophysiologie. C'est ce qui lui a permis de remarquer que les plantes ont tendance à surproduire du phénol, un déchet du métabolisme végétal, quand elles poussent dans des sols chargés en métaux lourds. Alors Anaïs Tondeur s'est rendue sur la Terre des Feux, en Italie, une zone où les sols sont lourdement pollués. Et elle a trouvé une technique pour capturer cet excès de phénol produit par les plantes au travers de ses photographies. Cette technique photographique qui est si particulière, j'ai pu voir comment elle fonctionnait en me rendant chez elle, où se trouve à la fois son laboratoire photo et son atelier.
Donc là, pour activer le phénol, il faut 2 litres d'eau. L'équivalent de 2 grandes cuillères d'acide ascorbique et 4 cuillères de carbonate de soude. Alors, je m'assure qu'il soit bien broyé. Et donc, je mélange là l'eau, l'acide ascorbique et le carbonate de soude. Et je vais pouvoir le glisser. Habituellement, en fait, ce mélange, je vais le réaliser sur le terrain et je vais placer ensuite le bac sous la plante et je viens immerger la plante directement dans le bain. Donc là, c'est ce qu'on peut faire ensemble maintenant.
Du coup, là, ce que vous êtes allé chercher, c'est quoi ?
Donc, je vais aller chercher 2 feuilles d'eucalyptus qui viennent d'une décharge qui se trouve sur une des pentes du Vésuve vers Herculanum. Et donc, je vais les immerger dans le bain pour en activer le phénol. Et alors là, il faut attendre à peu près une demi-heure pour que le phénol à l'intérieur de ces feuilles soit activé.
Du coup, pendant que les feuilles d'eucalyptus sont dans l'activateur de phénol, on peut monter dans la partie où il y a vos œuvres ?
Oui, très bien.
Je vous suis.
Donc là, toutes les photographies que vous voyez ont été réalisées sur site, auprès et avec ces plantes qui poussent sur la Terre des Feux, sans les extraire de leur milieu, donc sans les déraciner. Donc vous pouvez voir dans la composition des photographies la tige en fait vers le bas.
Est-ce que vous pourriez décrire ces images et nous dire dedans où se trouve exactement le phénol et où se trouve ce qui a été capté par la lumière?
Déjà, en fait, il faut se dire que le papier photosensible que j'utilise, c'est un papier noir et blanc. Mais là, on est dans une gamme de couleurs qui, finalement, a des tonalités extrêmement chaudes. Donc, on est plutôt sur des tonalités ocre, rose, pour certaines un peu bleues. Et donc, c'est comme s'il y avait une forme d'aura, en fait, qui se composait autour de la plante. D'après en fait mes échanges avec les 2 écophysiologues spécialistes du phénol, ce serait une réaction entre le phénol présent dans la plante qui va pousser les halogénures d'argent et certainement générer cette aura. Donc ce serait plus une réaction chimique.
Toutes ces nervures là qu'on voit qui sont un peu plus foncées que le reste de la feuille, c'est pas la lumière qui a dévoilé ces rainures là, c'est vraiment le phénol.
Toutes les parties brunes sont vraiment la trace en fait de l'interaction entre le papier photosensible et le phénol présent dans la plante, ce qui nous permet en fait d'avoir, ça m'est même arrivé de me promener à la loupe en fait sur ces tirages, et on a un niveau de détail qui est extrêmement fin. Après, en fait, ce qui est assez intéressant, notamment pour ces chercheurs qui travaillent autour du phénol, c'est d'une certaine manière de pouvoir observer une forme de cartographie de la présence du phénol sur la plante, sachant que là, en fait, c'est extrêmement clair. On a l'impression que, en fait, le phénol se trouvait particulièrement sur les contours extérieurs de la feuille. Donc, on a un petit liseré qui détaille très finement le contour de la feuille.
Oui, ça fait comme un dessin, comme si on avait d'abord dessiné tout le tour de la feuille avec un crayon un peu très foncé, quoi.
Oui, exactement. Et on voit aussi que le phénol devait être particulièrement présent en surface, parce que là, on a de magnifiques détails, en fait, de toutes les veines de la plante.
Est-ce que vous savez aussi, parce que j'imagine que vous avez pris des photos avec la même méthode sur des plantes un peu similaires, mais qui n'étaient pas de la terre des feux, est-ce que vous la voyez, la différence de phénol entre une plante qu'on irait prendre dans votre jardin et ces plantes-là qui ont poussé sur la terre des feux?
Mais là, en fait, on a beaucoup plus de détails, parce que le phénol étant bien plus présent, en fait, l'empreinte phytographique est bien plus détaillée. Là, en fait, l'idée, c'est par le geste photographique de venir collecter cet excès de phénol présent chez la plante, sachant que ces plantes sont des plantes qui, spontanément, viennent soigner ces sols chargés en métaux lourds, parce que pour la plupart, elles ont une capacité d'extraction et d'accumulation des métaux lourds dans leurs fibres.
Donc on est de retour devant la bassine avec les feuilles d'eucalyptus.
Oui, nous sommes donc dans le labo photo. Les feuilles ont été immergées pendant une bonne trentaine de minutes. Et donc là, je vais les mettre en contact avec les feuilles photosensibles. Et pour ça, j'ai besoin de le faire dans le labo photo, donc à la lumière rouge. Et donc là, je sors une feuille photosensible. Donc c'est un petit format, ça fait 13 par 18 cm. Je viens la placer sur une surface rigide. Et c'est là où on va avoir la mise en contact entre la feuille et le papier photosensible, le papier photo. Donc j'applique la feuille sur le papier et je viens vraiment avec le doigt accentuer le contact entre la feuille d'eucalyptus et la surface photosensible. Là, nous sommes prêts exposer à la lumière la feuille d'eucalyptus sur la feuille photosensible.
Là, dès qu'on va sortir du laboratoire, ça va commencer à imprimer sur la feuille photosensible.
En fait, la réaction entre le phénol et les halogénures d'argent du papier va commencer à prendre forme.
D'accord. Notre photo est prête ?
Notre empreinte phytographique est prête. Et donc, là, on va la découvrir, puis la fixer. Donc, moment de suspense. Est-ce que l'empreinte a prise? Alors, je vais délicatement soulever la feuille d'eucalyptus. Waouh! Et en termes de couleur, c'est à chaque fois la surprise. Et j'ai pas eu d'explication de la part des deux chercheurs spécialistes du phénol sur la raison pourquoi parfois, en fait, les phytographies vont virer vers les roses, et pourquoi d'autres sont plus dans une palette un peu plus froide de bleu, mauve, gris, ce qui est le plus le cas, en fait, de la phytographie qu'on vient de réaliser.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Clotilde Morette, on peut dire que cette artiste, Anaïs Tonder, fait partie des artistes qui envisagent les mutations du végétal face aux modifications anthropiques.
Effectivement, Anaïs Tonder est présente dans l'exposition, donc avec un autre projet, qui est un projet plus ancien, mais qui est encore en cours, puisque c'est un projet qui s'intitule Tchernobyl Herbarium, qui a été débuté en 2011, et qui consiste aujourd'hui en 38 rayogrammes, mais donc elle en produit chaque année. Nous, on en expose une petite dizaine, et ces rayogrammes témoignent de la catastrophe de l'explosion du réacteur de la centrale de Tchernobyl en 86. Donc elle a travaillé avec des biogénéticiens qui ont récolté des végétaux qui ont été contaminés par la radioactivité. Et elle va réaliser avec ces végétaux des rayogrammes. Donc c'est la même technique que les photogrammes, c'est-à-dire que les végétaux sont disposés sur sur un papier photosensible. Mais là, ce qui est différent, c'est qu'en fait, c'est la radioactivité des plantes qui vont créer les empreintes. Et en fait, c'est des images qui sont extrêmement fascinantes et en même temps très étranges, parce qu'on dirait presque des empreintes fantomatiques. C'est-à-dire que on a en fait la forme de la structure des plantes qui apparaît, et plus en fait les plantes sont chargées en radioactivité, plus elles apparaissent blanches, et tout autour on a une sorte de marron comme ça clairsemé qui apparaît un peu comme un nuage. Et ce qui est fascinant dans ce travail que mène Anaïs, c'est que finalement ces plantes, la terre, témoignent elles-mêmes en fait des mutations écologiques en cours.
Puis dans un autre registre, on a aussi Alice Palot qui est exposée à la MEP, qui elle travaille sur le phénomène des algues vertes en collaboration avec des scientifiques du CNRS. Ça donne Algues maudites, Sea of Tears, qui donne d'ailleurs des paysages science-fictionnesques. Alors que nous racontent les plantes fictives, les plantes hybrides de ces univers? Restez à l'écoute.
Deadlines, rules and regulations, and fuck all these smartphone machines, and fuck this company fishing gas car thing I've been driving, and fuck the pinger with his rotten hickey breath, and fuck this cheap cologne on my neck and stupid beard I've been riding, and fuck it all, motherfucker, I'm going straight to the hotspot, yep. Fuck all these brown envelopes sliding underneath my door, and fuck these goddamn things in my head, and fuck that guy at the gym that won't start looking at me when I piss.
Wildflowers de Warm Duscher, car nous parlons des fleurs vénéneuses et des autres plantes sauvages de la science-fiction en direct sur France Culture. On en parle avec nos trois invités du jour. Clotilde Morette, directrice artistique de la Maison Européenne de la Photographie et co-commissaire de l'exposition Science-Fiction, une non-histoire des plantes. Marc Janson, botaniste au Muséum National d'Histoire Naturelle et ancien responsable de l'Herbier National. Et Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, lui aussi. Alors dans l'exposition, on vient de parcourir quelques salles, et on arrive sur une des salles, hein, le chapitre 3, Au-delà du réel, avec une série de John Foncuberta, pardon, un artiste que j'aime beaucoup en plus, qui au début des années 80 propose des photographies de plantes incroyables, magnifiques. C'est en noir et blanc, ça ressemble aux herbiers de Karl Blosfeld, sauf que ces plantes n'existent pas, ce sont des assemblages de détritus industriels ou d'animaux. Ça, Jean-Sébastien, c'est d'ailleurs, ça ressemble un peu à ce qu'est la botanique spéculative. On peut peut-être rappeler en quoi consiste cet exercice intellectuel.
Oui, la botanique spéculative ou la biologie spéculative au sens large, en fait, c'est un exercice intellectuel, donc un jeu de l'esprit, qui consiste à imaginer des organismes, des êtres, d'une manière la plus cohérente possible, ou la plus plausible possible. Alors, on est dans le registre de la science-fiction assumée, mais la fiction très scientifique, ce qu'on appelle en anglais la hard science fiction. Et on est aussi, on parlait tout à l'heure de l'histoire un petit peu de la science-fiction, on est quelque part aussi dans le merveilleux scientifique, qui est finalement aussi l'ancien terme francophone cette fois-ci de la science-fiction. Donc pour imaginer en fait ces êtres irréels, mais d'une manière la plus plausible possible, on va piocher dans des sciences, dans des disciplines scientifiques diverses et variées, que ce soit la botanique, bien sûr, la zoologie, l'anatomie comparée, la paléontologie, l'écologie. Et on se rend compte que de plus en plus aujourd'hui, quand on parle de plantes, on va sortir des stéréotypes, ou plutôt des morphotypes de plantes qui étaient couramment utilisés dans la science-fiction, du genre plantes carnivores géantes, plantes tentaculaires qui enlacent ou enserrent, en fait, attrapent des fugitifs, etc. Donc, on était dans le domaine, en fait, du sensoriel, pour passer petit à petit à des plantes fantasmées qui vont accentuer et montrer, en fait, nos relations de plus en plus connexes entre les humains et les autres êtres vivants, y compris les plantes. Quand on regarde, en fait, un petit peu l'histoire de la science-fiction en termes de plantes, au début, il n'y avait pas grand-chose. et puis, dans les années 70, se développent, en fait, les éco-fictions, où là, les plantes, je pense à une autrice en fait américaine, Ursula Le Guin, ou Le Guin en anglais. Elle a écrit Le nom du monde des forêts, où elle imagine en fait carrément une planète quasiment complètement recouverte de forêts, comme le titre l'indique, où les humains vont débarquer d'une manière très extractiviste. Vont commencer à déboiser, déforester. On est dans les années 70 et elle va montrer en fait l'importance justement de tout ce couvert végétal au niveau planétaire et au niveau des organismes.
Ursula Le Guin, en effet, qui propose Le nom du monde des forêts, prix Hugo 1973. Je vous propose d'ailleurs une lecture, un extrait. Mais quand ils étaient arrivés ici, il n'y avait rien. Des arbres. Rien que des arbres touffus et enchevêtrés. Une forêt infinie et absurde. Un fleuve paresseux, surplombé, étouffé par les arbres. Quelques terriers acréates, cachés parmi les arbres. Quelques cerfs rouges, des singes poilus et des oiseaux. Et des arbres. Des racines, des troncs, des branches, des feuilles au-dessus, au-dessous, sur votre visage et dans vos yeux. Une infinité de feuilles sur une infinité d'arbres. De petits sentiers couraient sous la ramée, contournaient les troncs, enjambaient les racines. Ils n'allaient pas droit, mais cédaient au moindre obstacle, tortureux comme des nervures. La terre n'était pas ferme et sèche, mais humide et légèrement élastique, produit de la collaboration des êtres vivants avec la mort lente et complexe des feuilles et des arbres. Et sur ce riche cimetière, poussaient des arbres de 30 mètres et de minuscules champignons qui se développaient en cercle d'un centimètre de diamètre. Voilà la métaphore d'une forêt consciente. Le scénario du film Avatar de James Cameron est en grande partie inspiré de ce roman. Clotilde Morette, vous avez fait le choix également dans votre exposition d'exposer des livres, des romans de science-fiction. Pour quelle raison ?
Parce que la science-fiction était l'un des composants vraiment essentiels dans la création de cette exposition, et qu'on avait à cœur avec Victoria Recheva de faire dialoguer à la fois le récit scientifique, le récit fictionnel, et aussi comme d'utiliser la science-fiction comme un endroit où l'imaginaire nous permettrait de penser d'autres récits, des récits émancipateurs, ce qui, je pense, est aussi le rôle de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est toujours un écho quand même à la société, aux angoisses du moment, et permet de proposer peut-être un futur plus plus enthousiasmant que ceux qu'on nous propose encore, enfin aujourd'hui, et aussi de penser non pas en dehors des limites planétaires, mais avec ses propres limites. Et puis, c'était aussi intéressant de, à la fois comme on l'a fait pour la photographie et la vidéo, de montrer la représentation des végétaux à travers des récits de science-fiction, donc depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui.
En effet, depuis les années 50, vous avez Les joueurs de flûte de Philippe K. Dick et jusqu'à aujourd'hui, avec des romans comme La serre du bout du monde de Kim Chopiop, Clotilde Morette.
Oui, exactement. Et aussi ce qui était vraiment intéressant dans c'est un grand mur avec l'ensemble de ces ouvrages, mais c'était aussi de montrer comment ces végétaux apparaissent à travers le temps. C'est-à-dire que dans les années 50, on est vraiment en pleine guerre froide. Là, on a plutôt des romans écrits par des auteurs américains ou britanniques. Je pense au Trifi de John Wyndham ou à l'invasion des profanateurs. De Finet, et en fait les plantes c'est l'autre, en fait c'est l'ennemi invisible, celui qui ne dit pas son nom, et elles apparaissent toujours comme une sorte de menace qui plane par-dessus la société humaine. Et et finalement à partir des années 60 il y a une sorte de réveil écologique qui se fait jour. Je pense notamment avec la parution d'un ouvrage qui s'appelle Le printemps silencieux, qui a été écrit par la Rachel Carson en 62, et qui est un ouvrage extrêmement important dans la lutte contre les pesticides, et qui est un ouvrage qui va marquer la naissance du mouvement écologiste aux États-Unis. Et finalement, plus on se rapproche dans le temps, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et plus les végétaux, l'environnement naturel apparaît non pas comme l'ennemi, mais comme la solution.
Jean-Sébastien Steyer, en effet, dans la science-fiction, on a tout un tas de plantes qui sont douées d'une certaine intelligence et d'une intentionnalité conquérante plutôt malveillante.
Oui. En fait, en biologie spéculative, on essaie d'imaginer des organismes en fonction aussi des besoins scénaristiques, c'est-à-dire que si on veut faire, disons, un extraterrestre belliqueux, on va l'imaginer, on va le doter de tous les attraits morphologiques que l'on trouve, nous, horribles dans la biodiversité actuelle ou passée, c'est-à-dire on va imaginer un monstre muni de griffes, muni de cornes, avec éventuellement des yeux, mais c'est pas obligatoire, je pense aux monstres aliens, bien sûr. Et inversement, quand on veut créer des êtres, une altérité en fait empathique, on va utiliser des petites formes, en tout cas des êtres de la taille des enfants, avec des grands yeux globuleux, et puis si le doigt peut guérir des bobos, c'est encore mieux, donc on pense à E.T. Et on puise en fait beaucoup dans la biologie spéculative cette biodiversité animale, et malheureusement, il faut quand même chercher un peu dans les strates de la science-fiction littéraire et cinématographique l'utilisation des plantes, alors que on se rend compte que plus on travaille sur les plantes, plus elles sont importantes et plus elles ont inventé en fait de morphotypes différents. Je pense au système arborescent, au système buissonnant, au système lianescent. Elles ont inventé aussi des modes de reproduction incroyables pour nous humains. Elles ont inventé le clonage, l'hybridation. Elles ont inventé la reproduction sexuée visible ou pas. Elles ont inventé aussi l'association entre différents types d'organismes, pour pas dire des symbioses. Donc là, on commence à se rendre compte de la richesse imaginaire en fait des plantes, et qui distille dans la science-fiction. Et je trouve ça vraiment salutaire quand on voit aussi des artistes qui s'approprient et qui développent d'ailleurs des techniques photographiques, cinématographiques. Je pense à Vincent Fournier, qui utilise la technique photogrammétrique pour imaginer aujourd'hui en fait une sorte d'exoflore extraterrestre, en prenant en photo en 3D différents types d'inflorescences, et puis en les imaginant, en les projetant en fait sur d'autres planètes. On voit que les plantes, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, prennent une part de plus en plus importante dans l'imaginaire, et c'est tant mieux.
Oui, comme vous dites, Vincent Fournier et sa Flora Incognita, qui est un projet en cours de réalisation, ça aussi c'est un beau projet de botanique spéculative, Marc Janson.
Oui, alors c'est vrai que la question du végétal dans la science-fiction, enfin si on veut disons, voir l'idée de la science-fiction associée à la question écologique, et ça, nul doute que c'est quelque chose qui, de toute façon, va se poser dans les années, dans les décennies qui viennent, le végétal s'impose forcément, puisqu'il y a évidemment, on évoquait tout à l'heure la dépollution des sols, mais enfin, qu'on parle du cycle du carbone, qu'on parle du cycle de l'azote, qu'on parle de notre nourriture, de ce qui nous soigne, de ce qui dépollue, enfin, de tout ce qui peut être associé à la question écologique, hein, si on veut évoquer ce biosolutionnisme plutôt peut-être qu'un technosolutionnisme, ça passe de façon inévitable par le végétal. Donc je prédis un avenir très florissant à la question botanique dans la science-fiction à venir.
Jean-Sébastien Steyer, il y a aussi, par rapport justement à cette question écologique, il y a aussi une idée qui est abordée dans le film Catastrophe. Alors c'est pas un grand film, mais l'idée est intéressante dans le film Phénomène de Night Shyamalan en 2008.
Oui, c'est l'idée d'une propagation, alors non pas virale, mais d'une sorte de propagation. Dans ce film-là, en fait, les humains commencent à se suicider massivement et certains rescapés, en fait, vont se rendre compte petit à petit que tout dépend du vent qui transporterait en fait des pollens ou des particules issues du monde végétal qui pousseraient justement les humains à se suicider. Et là, c'est un petit peu la révolte. Des plantes contre tous les méfaits que l'humanité fait à cette ce phylum, en fait, un petit peu comme pour rester dans la biologie spéculative, Godzilla est une sorte de grand reptile géant réveillé par des essais ou la bombe atomique qui revient en fait sur Terre pour punir les hommes. Donc là, on voit que on utilise en fait les plantes pour alerter. Et c'est aussi le but de la science-fiction, c'est un des buts majeurs de la science-fiction, lancer des alertes en poussant des curseurs plus ou moins loin, plus ou moins forts, en utilisant soit des plantes, soit des animaux, soit des mutations ou des manipulations génétiques. Voilà, donc les plantes ont vraiment un bel avenir devant elles en termes de science-fiction aussi.
Clotilde Morette, en termes d'avenir botanique et de science-fiction, votre exposition se termine sur deux chapitres, hein, les plantes comme fiction politique et les plantes comme fiction spéculative, avec une œuvre majeure du Land Art, celle d'Agnès Denès, qui a transformé 8000 m² de décharge en un champ de blé. Et ça aussi, c'est une œuvre avec une portée politique très forte.
Oui, oui, c'est une œuvre aussi qu'on a la chance de pouvoir rendre visible dans certaines stations de métro parisiens. Donc chaque matin, moi, je m'arrête à Hôtel de Ville, et donc il y a ces photographies d'Agnès Denès qui sont présentées. Et en fait, j'ai pu assister à certaines réactions des passants devant ces photographies qui se demandaient si les photos avaient été retouchées, parce qu'en fait, on voit donc un champ de blé en face, donc à l'époque, voilà, des tours du World Trade Center. On est en 1982, et en fait cette image est complètement saisissante et paraît complètement artificielle, sauf qu'en réalité cette performance a bien eu lieu. Donc Agnès Denès, c'est une artiste hongroise qui s'est installée aux États-Unis dans les années 70 et qui a fait beaucoup de performances et de performances engagées, dont notamment celle-ci. Alors pendant plusieurs mois, elle a pu planter un champ de blé, donc sur 8000 m² en face du World Trade Center. Ensuite, elle a récolté ce blé, puis elle l'a distribué dans 28 pays. Et donc c'est vraiment une performance politique, un geste fort. Et pour Agnès Denès, c'était aussi une manière de dire que finalement l'accès à l'alimentation pour tous est un choix éminemment politique, social. Et donc c'était voilà une sorte de la confrontation de ce champ de blé face au grand capital.
Sur ces images, ces paysages science-fictionnesques, Marc Janson, est-ce que la biologie spéculative s'intéresse aussi à l'avenir végétal par le biais de la SF? Quoi ressembleront les plantes du futur?
Oui, alors il y a des outils de modélisation qui existent aujourd'hui. Je pense à l'unité AMAP à Montpellier qui travaille sur ce genre de choses, c'est-à-dire des données à la fois de morphogenèse des plantes, des données sur l'écologie, l'évolution du climat, etc. Et puis grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des outils de informatique, etc. On est en quelque sorte dans un jeu de projection de l'avenir de plantes qui sont à la fois sauvages sur des aspects écologiques, à quelle hauteur des arbres, la densité des forêts, etc. mais aussi des choses tout à fait liées à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le côté agronomique et alimentaire. Que produira un palmier à huile en Indonésie dans 20 ans, dans 30 ans? Donc, encore une fois, il y a une vraie perméabilité par rapport aux outils qui sont à disposition et qui peuvent aussi répondre à un côté scientifico-fictionnel de l'avenir que la planète nous réserve.
Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long
de
cette heure.
Beaucoup.
Merci. Je rappelle que l'exposition Science-fiction, une longue histoire des plantes, se tient à la Maison européenne de la photographie à Paris jusqu'au 19 janvier. Tout de suite, un tout autre sujet avec la découverte surprise d'un couple d'étoiles autour de Sagittarius A étoile, notre trou noir supermassif au centre de notre galaxie. C'est la chronique avec science.
Les systèmes d'étoiles binaires peuvent-ils subsister aux abords de trous noirs supermassifs ? Au centre de notre galaxie, la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif du nom de Sagittarius A étoile. Et jusqu'à présent, on pensait que la formation d'étoiles à proximité d'un trou noir d'une telle taille était sinon impossible, très difficile. Pour qu'une étoile se forme à partir d'un nuage de gaz et de poussière, il faut que la densité de ce nuage devienne si forte qu'il finisse par s'effondrer sur lui-même sous l'effet de sa propre gravitation. Et dans le cas présent, les champs gravitationnels du trou noir seraient si importants qu'ils empêcheraient le refroidissement du nuage à des températures qui permettent cet effondrement. Par ailleurs, certaines étoiles évoluent dans ce qu'on appelle des systèmes binaires, c'est-à-dire qu'elles sont accompagnées d'une seconde étoile formant un couple et tournant l'une autour de l'autre. On sait d'ailleurs que plus de 50% des étoiles de notre galaxie font partie de systèmes qu'ils soient binaires, triples ou plus encore. Néanmoins, toutes les étoiles observées dans le centre de la Voie lactée semblent seules, alors même que c'est l'endroit où elles sont le plus nombreuses. Ce qui a conduit donc les scientifiques à penser que l'influence du trou noir déstabilise immédiatement les orbites de ces systèmes, les conduisant à fusionner ou être détruites dans un temps trop court pour que nous puissions les voir. Mais pour la première fois, des scientifiques ont repéré un système binaire nommé T9 dans l'amas S, un cluster riche en étoiles et à proximité du trou noir supermassif Sagittarius A étoile. J'en ai parlé avec Emma Bordier, postdoctorante à l'université de Cologne. Elle a participé à la publication de cette étude dans la revue Nature Communications.
Ça fait très longtemps que les scientifiques surveillent le centre galactique parce que c'est vraiment une région où il y a beaucoup d'énigmes, de mystères. Donc, ce sont en fait des observations qui ont débuté en 2002 avec l'instrument NACO et Symphony de l'Observatoire Paranal au Chili. Et tous les ans, voire tous les mois, il y a des observations qui ont été faites. Donc, sans forcément avec un but scientifique, mais juste dans l'optique de pouvoir à un moment analyser toutes ces données dans leur entièreté et voir si on découvrait quelque chose. Donc, il y a d'un côté des images dans différentes bandes optiques, surtout dans l'infrarouge, parce que le centre galactique est si poussiéreux qu'en fait, il n'y a que dans l'infrarouge qu'on peut vraiment observer des étoiles. Et d'un autre côté, il y avait des spectres. Et d'habitude, on prend tous les spectres qu'on a observés, peut-être tous les mois, tous les 6 mois, et on les ajoute pour pouvoir augmenter le signal à bruit. Et là, en fait, ce qui a été fait par mon collègue Florian, c'était de ne pas additionner toutes ces images, mais de regarder séparément chaque spectre.
Et c'est en observant les spectres de lumière individuellement que les scientifiques ont remarqué que certaines raies se déplaçaient périodiquement du rouge au bleu. Cet effet est la signature de la présence d'un compagnon autour de cette étoile D9. Ce que l'on a pu observer, c'est que les systèmes d'étoiles binaires existent et sont observables. Donc les étoiles binaires peuvent subsister aux abords de trous noirs supermassifs. Ça, c'est un premier point. En second lieu, le système D9 est relativement jeune, ce qui aurait pu signifier que les étoiles peuvent naître dans cette zone inhospitalière. En vérité, rien n'est moins sûr puisque ces étoiles pourraient avoir été formées en périphérie, en terrain plus favorable à leur naissance avant d'être attirées dans une région plus proche du centre. Pour le moment, il ne s'agit que d'hypothèses. Et bien que composé d'étoiles jeunes, D9 pourrait vivre ces derniers instants sous nos yeux.
En parallèle de toute cette analyse des observations, il y a aussi des analyses numériques qui ont été faites dans le papier, dans l'article. Donc là, c'est nos collègues de République tchèque qui s'en sont chargés. Et ils ont montré qu'en fait, ce système est probablement pas stable, dû en fait au trou noir supermassif. Donc il y a un problème à trois corps qui s'installe. Et en fait, ce système va être amené au plus tard 1 million d'années, 2 millions d'années maximum, à fusionner. Ça va être complètement dû à l'attraction gravitationnelle qu'il y a avec le trou noir. Ça va un peu changer les orbites du système binaire et ce système va fusionner.
1 ou 2 millions d'années, c'est très peu à l'échelle cosmique et nous pouvons nous estimer heureux d'avoir pu assister à cet événement. Mais ce que signifie cette observation, c'est qu'il se pourrait bien que le centre galactique ait été truffé de systèmes binaires, mais que nous arrivions trop tard pour pouvoir profiter du spectacle. De même, l'existence de ces étoiles binaires nous laisse espérer la découverte de planètes dans l'environnement proche de Sagittarius A étoile. Pour l'instant, nos capacités d'observation sont trop limitées pour les repérer, mais la nouvelle flotte d'instruments qui devrait arriver d'ici la fin de la décennie pourrait bien changer la donne.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.